Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui en direct de Fréquence Mistral, nous sommes à Digne-les-Bains, 99.3, l'émission Graines d'IUT. Donc je suis Terry et nous sommes ici pour un podcast éducatif sur le thème de la place des micro-organismes dans la vie de tous les jours. Cette émission a pour but de répondre à des questions que chacun pourrait se poser chez soi dans son quotidien. Aujourd'hui, Lucille, Élise, Mario et moi-même, quatre étudiants de BUT Génie Biologique de Digne-les-Bains, en spécialisation SEE ou Parcours Sciences de l'Environnement et Écotechnologie, seront présents à près de 30 minutes et nous fragmenterons notre émission en deux parties. Alors, à tout de suite. Alors, vous venez d'écouter La Cabane Enchantée de Dub Silence. Donc, bonjour, bonjour à tous, toujours sur Fréquence Mistral, en présence de Lucille, Élise et Mario. Nous traiterons le sujet de micro-organismes dans notre quotidien. Donc, les micro-organismes, bactéries, virus, microbes, pathogènes ou saprophytes, tout cela peut nous perdre assez rapidement. Alors, commençons par les bases sur le sujet.
Vous avez certainement déjà vu des moisissures s'attaquer à votre confiture lorsque vous l'avez un peu oubliée dans votre réfrigérateur. Ou vous avez certainement un de vos proches qui vous a expliqué l'art de la fermentation. Ou alors vous avez déjà bu de l'eau dans une rivière et vous êtes tombé malade par la suite. Vous êtes-vous déjà demandé qui était à l'origine de ces phénomènes? Ils sont tout petits, mais ils existent bel et bien. Ce sont nos super amis, les micro-organismes.
Mais Élise, c'est quoi exactement?
Alors, un micro-organisme est un être vivant microscopique. Cela peut être une bactérie, un virus, une algue, un protozoaire ou un champignon, comme une levure ou une moisissure. Ce sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule que l'on nomme être vivant unicellulaire, à l'exception du virus qui, lui, n'est pas vivant. Ces micro-organismes peuvent être observés uniquement au microscope. Il est possible d'en voir à l'œil nu lorsqu'ils forment des colonies. C'est par exemple le cas des moisissures au fond de votre salle de bain. Ces petits amas représentent des milliers, voire des millions d'êtres vivants différents.
Ah, ça, on connaît.
Et ouais. Il faut savoir que ce sont des êtres vivants comme tout le monde. Ils ont alors besoin d'un environnement qui leur correspond pour pouvoir se nourrir et se multiplier. La plupart vivent dans des températures moyennes, mais certains apprécient les faibles ou fortes températures. Ou encore, d'autres préfèrent vivre dans un environnement sec, ou d'autres dans un environnement humide. Certains préfèrent un pH plutôt basique, ou neutre, ou acide. Il faut savoir que les micro-organismes sont présents partout, aussi bien que sur l'écran de votre téléphone, qu'à l'intérieur de notre corps, ou dans la mer, etc. Vous avez sans doute déjà vu des photographies de lacs acides situés dans le parc national de Yellowstone dans l'état du Wyoming aux États-Unis, qui prennent des couleurs vertes, bleues, rouges, oranges. Ce sont des bactéries que l'on nomme d'extrémophiles qui vivent dans ces lacs très acides et qui donnent cette couleur à l'eau.
Mais Élise, tu viens de dire qu'il y a des bactéries qui vivent dans des milieux aussi extrêmes. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de bactéries ?
Eh bien, à tous les endroits où est-ce qu'on a pu explorer, on a trouvé des micro-organismes. Il y a des endroits où on suspecte qu'il puisse y avoir des micro-organismes, ce sont des endroits difficiles d'accès, comme par exemple le fond des océans ou le fond d'un cratère de lave. On suspecte qu'il puisse y avoir des micro-organismes, mais on n'est pas allé forcément vérifier et c'est un petit peu compliqué. De même, l'être humain a créé certains produits et des mécanismes qui permettent de réduire ou d'éliminer les micro-organismes d'un endroit ou d'un objet donné. C'est le rôle par exemple de votre frigo, qui réduit le développement. De la stérilisation qui tue les micro-organismes, et c'est pourquoi vous pouvez manger vos boîtes de conserve plusieurs mois après la fabrication, si bien sûr elles restent hermétiquement fermées. C'est le cas de la congélation, des antibiotiques, des UV. Par exemple, le rôle de votre désinfectant, si vous désinfectez votre plan de travail, et de détruire les bactéries présentes. Mais quelques instants plus tard, d'autres arriveront. Il faut savoir que ces micro-organismes vivent très bien dans l'eau ou sur la terre, mais l'air n'est qu'un lieu de passage, car il n'y a pas à manger pour eux dans cet environnement.
Et au vu de leur taille, on se demandait justement, à quoi pourraient servir les micro-organismes ?
Alors Thierry, les micro-organismes déjà, c'est une découverte plutôt récente. Elle a été faite au XVIIe siècle par Van Leeuwenhoek, qui était un commerçant et un savant néerlandais. Ces micro-organismes jouent des rôles essentiels sur la Terre. Certains permettent par exemple aux vaches de digérer la cellulose. La cellulose, c'est une molécule présente dans tous les végétaux à peu près. La cellulose ne peut pas être digérée par la vache seule. Elle a besoin de micro-organismes pour le faire. Certains permettent aussi de fixer l'azote atmosphérique pour que les plantes, grâce à leurs racines, puissent l'assimiler. Par exemple, certaines bactéries dans notre corps ont également leur place dans notre tube digestif, ce qui empêche les bactéries potentiellement pathogènes de s'implanter, et donc ça freine la propagation. Ce qui nous amène à nous demander si un micro-organisme est pathogène ou utile dans son environnement. Je laisse donc la place à Mario qui va vous parler des micro-organismes pathogènes.
Merci Élise. Les micro-organismes pathogènes sont les différents micro-organismes qui peuvent faire des dommages sur le corps humain. Ce sont ceux qui sont responsables de nombreuses maladies, comme par exemple la méningite bactérienne ou même le tétanos. On les trouve tout autour de nous, dans notre quotidien. Comme nous l'a dit Élise, il n'y a pas de milieu stérile dans la nature. Des micro-organismes pathogènes sont donc omniprésents autour de nous. L'objectif de ces micro-organismes, si on peut le dire comme ça, est de résister, de se nourrir, mais aussi de se développer et de se reproduire. Cela est dû à la sélection naturelle qui a fait survivre les plus résistants et ceux qui se développent le mieux.
Mais comment ça marche exactement ?
Ils ont deux modes d'action qui sont très simples. La première, c'est que la bactérie va sécréter des enzymes pour dégrader la paroi cellulaire du corps humain afin de pouvoir entrer dans la cellule et s'en nourrir. Il pourra après se développer dans l'hôte, qui est ici le corps humain. La deuxième méthode, c'est que la bactérie s'accroche à la paroi de la cellule qu'elle veut attaquer, elle s'y fixe grâce à des pilis, et suite à cela, elle sécrète des toxines qui vont tuer la cellule, et la cellule pourrait être consommée par la suite. Les pilis des bactéries, ce sont des petits cils tout autour de la bactérie, sur la paroi extérieure, qui servent à se déplacer ou à se fixer à des sites d'accroche.
Ah ouais, trop forte ces bactéries. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas tout le temps malade ?
Pour ne pas être malade toute la journée, on a trouvé plusieurs techniques plus ou moins élaborées qui constituent aujourd'hui notre quotidien. À tous, ce sont évidemment des règles d'hygiène. À n'importe quelle échelle, que ce soit à nous, sur nous directement, on les utilise. Ou alors des procédés industriels, comme par exemple en agroalimentaire ou en médecine, par exemple. Des règles, des actions sont appliquées afin de ne pas être contaminés par les bactéries. Il est aussi à noter que le système immunitaire joue un rôle essentiel dans la protection contre les micro-organismes pathogènes. À notre échelle, Nous lavons régulièrement les mains, nous faisons la vaisselle, nous lavons nos draps ou nos vêtements. Tout cela évite à ce que les bactéries se développent et puissent entrer en contact avec nous, pouvant nous provoquer des pathologies. Au niveau industriel et en agroalimentaire, nous avons développé de nombreuses méthodes pour stériliser ou stabiliser les aliments. Nous avons les plus connues, la pasteurisation, la lyophilisation, la congélation et le salage. Et il y a aussi des moins connus, par exemple la tindalisation.
Mais Mario, du coup, la tindalisation, c'est pas comme la stérilisation ?
Et non, la tindalisation, c'est une méthode qui s'utilise sur plusieurs jours afin d'éliminer les bactéries les plus résistantes, notamment à la chaleur. Mais il est important de retenir qu'aucune de ces techniques ne permet d'éliminer tous les micro-organismes d'un aliment à coup sûr. Cependant, il n'y a pas que des micro-organismes nuisibles pour l'homme, certains sont utiles et je vais laisser Lucille vous les présenter.
Merci Mario. En réalité, la plupart des micro-organismes sont utiles et même vitaux pour nous et la vie sur Terre. On les appelle les saprophytes. Ce sont tous les micro-organismes qui ne sont pas pathogènes. Certains sont tout simplement indispensables à la vie. Ils participent à ce qu'on appelle notamment des cycles biogéochimiques.
Mais du coup, un cycle biogéochimique, ça veut dire quoi exactement ?
Alors, pour comprendre ce concept, il faut se rappeler d'une citation que sûrement vous avez déjà entendue affichée dans des salles de chimie au collège ou au lycée de Antoine Lavoisier, qui dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et bien, cette citation, elle s'applique aussi aux atomes indispensables à la vie, tels que le carbone, l'azote ou le phosphate. Ils n'échappent pas à cette règle. De matière organique, ils se transforment en matière minérale qui se retrouve dans la terre, l'eau ou le sol, avant d'être retransformé en matière organique. Et c'est dans ce passage entre la matière minérale et la matière organique que jouent un rôle majeur les micro-organismes. Par exemple, certaines bactéries vont fixer l'azote de l'air et les transformer en forme utilisable par les plantes. C'est un des nombreux exemples, mais on comprend vite que sans eux, pas de vie possible sur Terre. C'est aussi vraiment très important les micro-organismes, parce qu'ils sont notamment les premiers maillons de la chaîne alimentaire. En effet, nos micro-organismes vont être mangés par des organismes un petit peu plus grands, qui sont eux-mêmes mangés par des organismes encore plus grands, et ainsi de suite, on peut remonter jusqu'à nous, les hommes. On oublie aussi souvent, mais certains micro-organismes qu'on va appeler les phytoplanctons sont capables de photosynthèse. Ils vont émettre de l'oxygène. C'est près de 50% de l'oxygène que l'on respire. C'est vraiment pas négligeable. Il faut pas les oublier.
Ah bon, c'est pas les forêts qui font la photosynthèse qui sont la majorité qui produit de l'oxygène dans l'air ?
Alors si, effectivement, les forêts ont un très très grand rôle dans la production d'oxygène. Mais il y a aussi, effectivement, dans la vie marine ou des petits micro-organismes qui font la photosynthèse. On retrouve d'autres micro-organismes qui sont indispensables à l'homme. Nous avons naturellement des bactéries qui sont présentes sur tout le corps, mais sans danger pour nous, voire au contraire, ils vont nous aider. C'est ce qu'on appelle la flore commensale, ou encore plus connue sous le nom de microbiote. On en retrouve sur la peau, les intestins, les poumons, ou encore les bronches ou la bouche. C'est près de 1 à 5 kilos. C'est vraiment beaucoup. C'est même supérieur au poids qu'on a du cerveau. Excusez-nous pour cet incident, donc on va reprendre. Donc ce microbiote, c'est au total plusieurs milliers d'espèces différentes de bactéries qui sont encore trop méconnues. Ils font l'objet de recherches pour comprendre et pour notamment prévenir certaines maladies. Mais aussi, on pourrait moins y penser, mais ça sert aussi dans la santé psychologique ou encore dans la recherche contre le cancer. La plupart de ce microbiote se trouve dans l'intestin. Il est très impacté par notre alimentation. Mais donc chaque personne a son propre microbiote. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces petites bactéries jouent un rôle fondamental dans la digestion, en nous permettant d'absorber et d'assimiler des nutriments que le corps tout seul ne peut pas faire. C'est le cas notamment des fibres végétales, on a parlé tout à l'heure de la cellulose, ou de certaines vitamines telles que la vitamine B ou la vitamine K, qui sont vraiment importantes. Le microbiote, il est aussi sur notre peau, où il agit comme un bouclier vivant face aux infections. Mais que ça soit sur notre peau, nos intestins ou même jusque dans nos poumons, toutes ces bonnes bactéries vont prendre de l'espace qui vont ensuite être moins disponibles pour les mauvaises bactéries en quelque sorte qui vont nous provoquer des infections. On peut parler aussi, également des bactéries qui sont utiles à l'homme, plus qu'indispensables, notamment pour tout ce qui est production médicale avec la fabrication de médicaments tels que l'insuline, les antibiotiques, les vaccins. On utilise souvent des bactéries car elles sont faciles à cultiver et à modifier génétiquement. Évidemment, quand on pense bonnes bactéries, on va aussi penser à tout ce qui est production alimentaire, avec tout ce qui est fermentation. On connaît tous le pain avec le levain, les levures, et pareil dans les vins, il y a certains, ou encore dans les bières, et évidemment dans le fromage, mon favori. Toutes ces bactéries sont indispensables au quotidien.
Voilà que notre première partie se termine, mais nous nous retrouvons immédiatement après cette petite pause en musique. A tout de suite. Bonjour aux nouveaux arrivants et rebonjour à nos habitués. Nous sommes toujours à Fréquence Mistral, Digne-les-Bains, 99.3, à l'émission Graines d'IUT. Nous allons tout de suite répondre aux diverses questions que nous pouvons tous nous poser dans notre quotidien. Une question qui a tendance à revenir est Élise, les bactéries et les virus sont-ils tous deux des microbes ?
Alors Thierry, tout d'abord, le terme microbe signifie « petite vie ». Ce mot a été inventé au XIXe siècle pour désigner tout ce qui n'est visible qu'au microscope et qui provoque des maladies. Ce terme n'est pas très scientifique parce qu'il regroupe des micro-organismes très différents, qui sont des virus, des bactéries, des algues unicellulaires, des protozoaires, etc. Mais c'est quand même le mot qui revient le plus souvent dans nos bouches, surtout en ce moment où plein de personnes sont malades.
Ah oui, moi j'en ai trop marre d'être malade tout l'hiver. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est malade quand il fait froid ?
En fait, le froid affaiblit notre résistance envers les micro-organismes pathogènes de plusieurs façons. Tout d'abord, le froid peut entraîner une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui va ralentir le transit des globules blancs. De plus, le froid va également altérer l'effet des globules blancs sur les micro-organismes pathogènes et réduire leur effet. Le froid va également altérer la réponse immunitaire en diminuant l'efficacité des cellules impliquées dans la défense de l'organisme, comme les globules blancs notamment. Par temps froid, les gens ont tendance à rester à l'intérieur, dans des espaces mal ventilés et clos, ce qui facilite la transmission des virus et des bactéries entre plusieurs hôtes. Certains virus, comme ceux responsables du rhume ou de la grippe, survivent plus longtemps et sont plus actifs dans un environnement froid et sec, ce qui est le cas en hiver, notamment dans le 04.
Et Lucille, ça me fait rebondir. Comme on va en montagne ce week-end et qu'on va dormir en refuge, est-ce qu'on pourra boire l'eau de la rivière ?
Alors, en ce moment, en montagne, bon, il y a la neige, mais l'eau des ruisseaux, c'est pareil. Globalement, c'est plutôt déconseillé. Certains ont fait l'expérience de boire l'eau de la Bléone, ici à Digne, et ça s'est pas très bien passé par la suite. Le risque, c'est principalement une contamination bactérienne par des bactéries pathogènes qui rendent malades. Et ces bactéries se trouvent surtout, elles sont dans l'eau parce qu'elles sont récupérées par l'eau suite à des déjections animales ou alors sur des cadavres. Et ensuite, vont se mélanger à l'eau et quand on va les avaler, c'est là où ça va faire une infection. Donc, pour limiter le risque, il vaut mieux filtrer l'eau ou la traiter. Il existe diverses techniques, notamment on peut trouver des trucs très sophistiqués dans des magasins de montagne, tels que des flasques filtrantes ou alors des pastilles de chlore. Et sinon, on peut tout simplement la faire bouillir. Cependant, si rien de tout ça est possible, il vaut mieux, dans un cas très urgent, se rapprocher au maximum de la source, car sous terre, dans les profondeurs, il y a beaucoup moins de micro-organismes et souvent, ils ne sont pas pathogènes. Donc, il vaut mieux boire l'eau au plus proche de la source. Mais attention, parfois, ce qu'on croit être une source n'est qu'une résurgence d'eau. Donc, ça veut dire que l'eau a déjà eu un premier contact avec l'extérieur, donc elle est déjà potentiellement contaminée. Donc, même si elle sort du rocher, il faut mieux se renseigner de où est-ce qu'on boit notre eau. Au risque péril.
J'aurais une question pour Thierry. La semaine dernière, j'étais chez mon médecin généraliste et je suis tombé malade précédemment. Et le médecin généraliste ne m'a pas proscrit d'antibiotiques. Comment est-ce que tu pourrais expliquer cela ?
Eh bien, la réponse est assez simple. Les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les virus. Et donc, votre maladie est sans doute virale. Maintenant, pourquoi ne font-ils pas effet ? Eh bien, un virus ne se multiplie pas comme une bactérie. Celui-ci est un parasite utilisant d'autres cellules pour se multiplier. Or, les antibiotiques agissent sur les équipements biologiques indispensables au bon fonctionnement ou à la multiplication des bactéries, et donc n'ont absolument aucun effet sur les virus.
Et du coup, Thierry, pourquoi certaines personnes disent que les antibiotiques ne fonctionnent plus comme avant ?
Eh bien, les bactéries sont capables de se multiplier par clonage. Ce processus permet donc de faire augmenter très rapidement la taille de la colonie bactérienne. De plus, au sein d'une espèce bactérienne, les bactéries ne sont pas toutes identiques, comme dans chaque population, humaine, animale ou bactérienne. Les individus sont différents de l'un à l'autre. Une bactérie pourrait être, comme familièrement dit, mâle ou femelle, mais nous leur donnons le genre de F+ ou F-, en fonction de oui ou non. Ils ont une structure génétique supplémentaire. Les informations situées dans ces structures pourraient être transmises à une autre bactérie qui ne possède pas de structure génétique supplémentaire. Et donc, les informations sont transmissibles seulement des bactéries F+, vers les bactéries F-. Maintenant, si dans ce code génétique se trouve y avoir une résistance à un certain antibiotique, alors celui-ci pourrait être transmis à des bactéries F-, et ainsi devenir assez courant dans l'espèce. Enfin, lorsque l'on utilise des antibiotiques, nous éliminons la totalité, ou presque, des bactéries non résistantes à celui-ci, ce qui laisse largement la place aux bactéries résistantes pour se développer et ainsi permettre à l'espèce bactérienne de maintenir le gène de résistance à cet antibiotique. Les bactéries peuvent donc, à force d'être en constante contact avec un antibiotique, développer une résistance contre l'antibiotique utilisé. C'est pour cela qu'il faut éviter d'utiliser systématiquement les antibiotiques.
Moi, ça n'a pas trop de rapport, mais récemment, on a fait une soirée crêpe chez un pote et on a fait griller son électricité. Donc là, actuellement, il n'a plus de frigo et de réfrigérateur. Et du coup, il nous a demandé avec Élise si on pouvait accueillir ces aliments qui ont décongelé pour qu'on puisse les conserver dans notre réfrigérateur. Mais il me semble qu'il est plutôt déconseillé de recongeler un aliment après l'avoir décongelé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, Élise ?
Alors, je me suis renseignée et en fait, quand on congèle un aliment, le froid ne fait qu'inhiber le développement des bactéries. Cela veut dire que le froid ne les tue pas. Cependant, les bactéries étant formées par une seule cellule et cette dernière étant composée de beaucoup d'eau, il est possible que des cristaux de glace viennent liser certaines bactéries. Ça veut dire que les bactéries sont tuées et c'est comme si elles explosaient en même temps dans le milieu, créant des débris cellulaires. Cet effet des cristaux de glace est aussi valable pour toutes les cellules présentes dans les aliments que vous avez congelés. Imaginez, vous avez fait une ratatouille. Les cellules présentes sur les tomates, les courgettes, les aubergines vont elles aussi subir cet effet de cristaux de glace et vont faire créer beaucoup de débris cellulaires dans le milieu. Lorsqu'on décongèle l'aliment, la température devient de nouveau favorable et les bactéries recommencent à se développer. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'il y a plein de débris cellulaires qui vont nourrir ces bactéries et ces bactéries vont alors se développer beaucoup plus vite. Si vous recongelez ce produit, vous allez répéter le schéma que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire les cellules vont à nouveau être détruites et créer à manger pour les bactéries. Et du coup, si vous redécongelez ce produit et que vous le mangez par la suite, vous allez manger beaucoup de micro-organismes et votre corps ne va pas forcément supporter. Il est possible de recongeler un produit si entre-temps vous l'avez fait cuire car la chaleur tue les bactéries. Petit conseil. Si vous devez décongeler un produit comme par exemple une dinde que vous voulez faire cuire le lendemain matin, il est recommandé de la faire décongeler dans votre frigo pour empêcher que les bactéries prolifèrent trop rapidement.
Donc on peut dire « dommage Maë, mais on ne peut pas accueillir ton réfrigérateur chez nous ».
Non, ça ne sera pas possible.
D'accord. Et concernant les boîtes de conserve, peut-on les manger après la date de péremption ?
Alors, pour se pencher sur la question, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dates de péremption selon le mode de conservation des aliments. Par exemple, ici, pour les boîtes de conserve, on sait qu'on a une boîte qui va être hermétique et stérilisée. Donc, on va tuer tout type de micro-organismes, même les plus résistants. Donc, la date inscrite sur sa boîte, ce n'est pas vraiment date de péremption, mais c'est plutôt une DLUO ou une DMM, soit une date limite d'utilisation optimale ou alors une date de durabilité minimale. Enfin, tous ces mots, ça veut dire surtout qu'au-delà de ces dates, les qualités du goût et de la texture et de la nutrition ne sont plus garanties. Cependant, il n'y a pas de danger pour la santé. Attention, parce que si une boîte est abîmée ou alors si elle n'est plus tout à fait hermétique ou ouverte, le développement bactérien se fait. Donc, il ne faut absolument pas conserver une boîte de conserve qui a eu un choc ou quelque chose comme ça. Pour tout ce qui est conservation maison, les stérilisations sont un petit peu différentes qu'en agroalimentaire. Donc, on préconise pour un peu plus de sécurité de garder seulement 5 ans après la conception. Oui aussi, il faut faire attention, même si c'est assez rare, parfois il peut y avoir des contaminations malgré toutes ces précautions avec une bactérie qui est assez embêtante, qui s'appelle Clostridium botulinum, qui a une faculté de résistance et qui va provoquer une maladie neuroparalytique très très grave. Donc, pour se prévenir de ça, il faut détecter quand une boîte est gonflée ou alors qu'elle a une odeur suspecte. Dans le doute, il n'y a pas de doute, il faut la jeter.
J'aurais une question pour Terry. Est-ce que laisser un verre d'eau à température ambiante et le boire juste après peut avoir un impact négatif sur nous ?
Alors, peut-être laissez-vous un verre d'eau sur la table de nuit dans le but d'une petite soif dans la nuit ? Eh bien, je suis dans le regret de vous annoncer que ce n'est pas une si bonne idée que ça. Naturellement, dans l'air et dans l'eau, se trouvent de nombreuses bactéries. Le fait est de laisser un verre d'eau stagnante à température ambiante et en contact avec l'air, permet aux bactéries de s'y développer assez rapidement. Or, lorsque vous vous décidez enfin à boire ce verre, les bactéries s'y sont sans doute bien plus, ce qui a sans doute entraîné une modification de pH et donc de goût par la même occasion. En conclusion, boire de l'eau ayant été la nuit à température ambiante et au contact de l'air se résumerait plutôt à une soupe de bactéries. Utilisez plutôt une gourde, car l'eau ne sera pas en contact avec l'air.
Et Mario, j'avais une question. J'ai une amie, il y a quelques semaines, qui a dû prendre des antibiotiques parce qu'elle était vraiment très très malade. Et le médecin lui avait dit de manger des yaourts pour rétablir sa flore commensale. Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, lorsqu'on prend des antibiotiques à large spectre, c'est-à-dire qui détruisent un grand nombre de micro-organismes, parmi eux, la flore commensale est touchée, des micro-organismes pathogènes peuvent alors s'introduire et provoquer des pathologies.
Donc on prend un antibiotique pour retomber malade par la suite.
Et oui. Et pour réhabiliter du coup cette flore commensale, qui est importante pour rester en bonne santé, il faut se mettre en contact avec des micro-organismes qui ne sont pas nuisibles. On en trouve notamment beaucoup dans les yaourts. C'est pour cela que les médecins conseillent d'en consommer suite à un traitement comportant des antibiotiques.
Il n'y a pas que dans les yaourts, il y a aussi tout ce qui est probiotiques ou même dans d'autres aliments qui sont ensemencés du coup par des bactéries bonnes pour la santé. Le fromage.
Encore ce fromage.
Donc, c'est sur ces notes que se finit notre programme. En espérant que ce fut un moment agréable pour vous, ce fut un moment très enrichissant pour nous. Et nous sommes en attente de nombreux retours positifs. Merci et au revoir sur Fréquence Mistral.
Au revoir.
Maintenant, Bigaranx.
Au revoir.
For the time and the weather, me have life, me no dead up. Me have to climb up on the ladder. Sometimes it's hard for my sister, me pray up. But we no fed up, the future we no afraid of. Yeah, I sunshine on my face. None of them could have take my place. Give up myself to the top, you know we paper hot. Forward through the life we don't stop. Boom, I try to move intelligently. I make my music differently. Big up Attili, big up Mr. Brandy. I put my voice on a good frequency. Life it no sweet like a box of candy. But everything is good from God defend me. Wicked people want to rearrange me. But none of them I could I ever ever change me. Yeah, my sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Mash up the dance, we no flop. Boom, sunshine on my face. None of them could have take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life, we don't stop. Boom, the sunshine rise and push away the rain. The rain in Spain falls mainly on the plane. Forward with the thinking of the future in my brain. The negativity, we just have flush it on the train. In my fortune cookie, he tell me be no rookie. Me squanny and skinny, but tell me no bookie. I just wanna have a good day. Count my blessings and share my prey. Yeah, I sunshine on my face. None of them could have take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Mash up the dance, we no flop. Boom, sunshine on my face. None of them could have take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life, we don't stop.